Alors, très rapidement, ce qui a été fait face à la crise, je vais passer rapidement parce que c'est relativement connu. Alors, les politiques monétaires, de taux d'intérêt est tombé à zéro, et puis les politiques dites non conventionnelles ou quantitative easing, qui consiste à créer de la monnaie. Alors, comment on crée de la monnaie quand on a une banque centrale? Vous le savez, mais il vaut mieux le redire, on crée de la monnaie en achetant des titres, soit des titres publics, donc de la dette souveraine, ou pas souveraine, mais publique, et autrement, on achète des titres privés, c'est-à-dire des obligations. Mais souvent, c'est de la dette publique, des bons du Trésor, etc. Et on met en échange, évidemment, ça augmente d'autant les liquidités sur le marché. Alors, on sait que ça a été fait massivement par les États-Unis, en deux étapes, d'ailleurs. Vous vous rendez compte que d'abord, la Fed a acheté pour 1 000 milliards de dollars d'obligations hypothécaires. Et puis, ça, c'était le quantitative easing 1. Et puis, le quantitative easing 2, que maintenant, en novembre 2010, c'est encore 600 milliards qu'ils ont racheté d'obligations d'État, etc. Donc, massivement, ils ont créé des liquidités. Ils ont créé de la monnaie. Ils ont créé de la monnaie massivement. Bon. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aspect politique monétaire. Alors là, à fond, aux États-Unis. Alors, en Europe, plus modestement, les taux d'intérêt sont tombés très bas, pas tout à fait à zéro, et le quantitative easing a été joué par la Banque Centrale Européenne, ce qui est assez spectaculaire dans la mesure où Trichet, a priori, n'était pas du tout de ce côté-là. Il faut voir la peur que ça représente, hein. Il faut voir la peur que ça représente pour que quelqu'un d'aussi orthodoxe et quelque chose, une institution aussi orthodoxe que la BCE se soit lancée dans une politique de création monétaire en rachetant des titres. Enfin, à côté de ce qu'a fait la Fed, c'était une plaisanterie. Bon, le Japon l'a fait également, la Banque d'Angleterre l'a fait également, le Japon le fait régulièrement. C'est une situation particulière parce qu'eux, ils sont en déflation depuis déjà un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Ça, c'est la première politique. Deuxième politique, les recapitalisations, les nationalisations. On n'en parle plus beaucoup, mais il faut revenir en arrière. Les banques s'effondraient d'un point de vue global, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'était une crise systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système bancaire qui était en train de s'effondrer. À ce moment-là, une partie a été nationalisée, c'est-à-dire que les États ont mis de l'argent dans les banques, ont recapitalisé les banques. Et il faut bien vous rendre compte que quand vous avez une disparition du capital, c'est très difficile de fabriquer du capital. Comment vous faites? Vous n'avez plus de capital. Hein, bon. Comment vous n'avez plus de capital libre? Il s'est dévalorisé, il n'a plus de valeur, c'est tout, il n'a plus de valeur. Il a perdu de sa valeur avec l'effondrement des actifs, comme il avait gagné de la valeur avec la croissance des actifs. Alors là, quand on parlait des 10 000 milliards qui avaient fondu, c'était 10 000 milliards de capital qui avaient disparu. Donc le capital, les banques étaient décapitalisées. Et quand elles sont décapitalisées, comme elles ont des ratios prudentiels, malgré tout, elles ne peuvent plus prêter. Elles sont dans une situation très difficile. Et en plus, elles risquent une crise de solvabilité. Et comme elle était systémique après la chute de Lehman Brothers, le risque était énorme. Donc les États sont intervenus en recapitalisant les banques, c'est-à-dire en leur fournissant du capital sous une forme ou sous une autre, en leur prêtant de l'argent. Alors évidemment, ce n'est pas sorti directement de la poche des contribuables pour aller dans la poche des banques, comme on pourrait le penser naïvement. C'est de l'argent qui est prêté, qui est avancé aux banques et aux États-Unis, vous le savez peut-être, avec la restauration des conditions de profit des banques, beaucoup a été remboursé à l'État américain, qui a fait même des bénéfices importants, puisque finalement, ils avaient acheté des actions très bon marché, et puis ils les ont vendues très cher. Certains, à ce moment-là, dont moi, d'ailleurs, il faut bien le dire, pensaient qu'il fallait, en France en particulier, nationaliser très rapidement la totalité du système bancaire. Ça n'a pas été fait, mais on peut dire qu'aujourd'hui, le système bancaire en Europe est plus fragile que ce qu'on peut imaginer. Les stress tests passés en Europe ont été mal faits. La preuve en est que les banques irlandaises avaient réussi ce magnifique concours de stress test et que quelques minutes à peine après avoir réussi l'examen, elles s'effondraient dans les conditions que que tout le monde connaît. Bon. Donc, plusieurs milliers de milliards de dollars, 2000 milliards rien que pour l'Europe, de recapitalisation, de sauvetage des banques. Alors ça, c'est considérable. Entre parenthèses, ça a créé des problèmes psychologiques dans une période où déjà les inégalités augmentent très fortement, de voir ces sommes monstrueuses affectées au sauvetage du système bancaire. Ça a été très mal perçu aux États-Unis, aussi bien chez les extrémistes républicains des Tea Party qu'à gauche. En disant, on ne comprend pas comment est-il possible de sauver les banques et de laisser s'effondrer les gens qui avaient acheté des maisons en s'endettant. C'est le point 3. Presque rien n'a été fait pour les dettes immobilières des particuliers. Parce que les particuliers, aux États-Unis particulièrement, ils se sont endettés absolument massivement. Là, je donne qu'un chiffre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un vingtième des endettés a vu sa maison saisie. Hein, c'est pas mal quand même. Un vingtième des endettés a vu sa maison saisie. Ça fait à peu près 9 millions de foyers. Bon, on a beau calculer sur 150, 160 millions d'habitants, je ne sais plus combien il y a d'habitants aux États-Unis, mais ça fait quand même un paquet. Bon, on pouvait penser qu'on aurait pu, comme ça a été fait dans les années 30, restructurer, terme modeste, rééchelonner, ou même considérer que les dettes de ces particuliers étaient annihilées. Bon, alors d'accord, les gens qui auraient été les plus aventuriers et qui auraient été les plus spéculateurs auraient gagné, puisque finalement, ils n'auraient pas payé. Mais bon, rien n'a été fait, ou à peu près pour eux. Donc, il y a là aussi un phénomène d'inégalité et d'injustice, puisqu'on sauve les uns, on ne sauve pas les autres. Troisièmement, quatrièmement, les politiques budgétaires et les plans de relance, ils ont quand même été considérables. Je ne vais pas tous les développer, mais en France et en Allemagne, à peu près pareil. Vous voyez, 48 milliards et puis les projets d'infrastructure publique. En Allemagne, autour de 60 milliards d'euros. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus et en Chine, c'est encore beaucoup plus. Bon, ça s'est fait en deux étapes, vous retrouverez ça assez facilement. Il y a eu le plan Paulson, qui a été surtout orienté vers le sauvetage des banques et les créances, et puis le Recovery Act d'Obama par la suite, avec un certain effort sur les infrastructures. Entre nous, soit dit, c'est pas comparable à ce qui avait été fait dans les années 30. Et la Chine a fait un plan de relance tout à fait considérable également. Cinquièmement, donc ce sont ces plans de relance qui sont une des conséquences de l'augmentation massive des dettes publiques, bien sûr. Il faut relier l'augmentation des dettes publiques à la crise, c'est-à-dire aussi bien à l'augmentation des dépenses pour les plans de relance que la diminution des recettes avec le fait que les impôts rendaient beaucoup moins. Cinquièmement, la réglementation. Alors, aux États-Unis, la règle Volcker, qui est une règle qui interdit finalement aux banques de spéculer sur fonds propres, c'est pas tout à fait revenir au Glass-Steagall Act de 1933, par manque sans doute de volonté de lutter contre les lobbies bancaires, ou même de possibilité de lutter contre les lobbies bancaires, mais c'est quand même un pas en avant. Et puis en Europe, il y a eu mise en place d'autorités régulatrices européennes, mais en maintenant quand même des régulateurs nationaux des banques. Donc il y a un mélange des genres entre la régulation à l'échelle européenne qui se développe fortement et les responsabilités qui sont maintenues entre les mains des régulateurs nationaux. Et puis il y a eu surtout Bâle 3, c'est-à-dire la détermination des ratios de fonds propres des banques. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si ça vous a intéressé, mais ça l'est intéressant, la discussion autour de Bâle 3. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, le ratio sur fonds propres, c'est-à-dire combien il faut de fonds propres de première ou de deuxième catégorie pour pouvoir faire un prêt de, disons, 1000 dollars. Bon, combien il faut on ne peut pas laisser les banques avoir des leviers infiniment élevés. Il faut quand même des limites. Il y en avait une. Alors, l'ancienne limite, pour 100 de crédit, il fallait 2 de fonds propres de base et 4 de quasi-fonds propres. Alors, on a changé et on a durci pas mal le ratio sur fonds propres. Le premier Core Tier 1 est passé à 4,5 plus 2% de fonds équivalents. Ça fait 7%. Au moment de la discussion, c'est assez intéressant, au moment de la discussion, le lobby bancaire s'est déchaîné en disant si on accepte ce durcissement, vous ne vous rendez pas compte, nous, on va avoir le couteau sur la gorge, on ne va pas pouvoir prêter. Et alors, ils ont fait faire des calculs à des économistes stipendiés, comme il y en a beaucoup, et ils sont arrivés à des résultats absolument tragiques, comme quoi le taux de croissance, qui était déjà faible, se chuterait, que les banques ne pourraient plus prêter, qu'il y aurait un étranglement du crédit, etc. Bon, la BRI est revenue en disant que tous ces calculs étaient erronés. Et quand on voit ce que d'autres pays comme la Chine, la Suisse ont fait, ces nouveaux rapports n'étaient pas particulièrement exorbitants. Alors, bon, je disais tout à l'heure que la crise avait produit une augmentation des déficits publics. Là, vous avez une évolution des déficits publics pendant la crise. C'est tout à fait spectaculaire. Entre 2007 et 2009, on voit l'augmentation dans tous les pays, sans exception. Que faire aujourd'hui, maintenant ? Essayons de regarder que faire aujourd'hui. Les contradictions, d'abord, le premier point, les contradictions à l'œuvre. Bon, les contradictions à l'œuvre, il y en a beaucoup, mais il y en a une sur laquelle je veux mettre l'accent, parce qu'on peut pas tout étudier. Le problème, c'est la contradiction entre la nécessité d'accroître la demande privée, puisqu'on a une crise de la demande globale, et de résorber les déficits budgétaires. Alors évidemment, le problème, c'est que les politiques de résorption de la dette vont avoir des conséquences, ou risquent d'avoir des conséquences, qui freinent la reprise de la demande privée. Inversement, si on veut gonfler et continuer à soutenir la demande privée, on va avoir une augmentation des déficits. Alors, je crois que tout dépend de la situation des pays, pour voir comment les choses se passent. Donc on peut reprendre les différents pays. Les pays qui ont un fort excédent de balance commerciale, comme l'Allemagne et la Chine, ont la possibilité de réduire leur déficit public dans la mesure où ils comptent très largement sur les exportations et où la demande qui s'adresse à leurs entreprises est très largement une demande extérieure. Donc vous voyez, pour l'Allemagne, par exemple, c'est pas très difficile de faire un petit peu d'austérité, à condition que ce soit pas trop important, mais sur le plan purement national, les conséquences ne sont pas dramatiques, puisqu'elles jouent essentiellement sur une demande extérieure. D'accord ? Bon, donc, pour les pays maintenant qui ont des dettes très élevées, un déficit très important. Alors, ceux-là, on le sait, c'est des pays qui sont en quelque sorte contraints de faire une politique d'austérité. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités, contraintes qui tiennent au marché, si vous voulez, au marché financier. C'est le cas de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Irlande. Et ils n'ont pas vraiment de choix tant la pression est forte. Si on prend maintenant les États-Unis, le cas est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ils ont un énorme déficit, un double déficit, le déficit des finances publiques, de leur budget, et puis le déficit de la balance commerciale. Donc ils sont dans une situation qui est radicalement différente de celle de l'Allemagne, mais ils bénéficient du fait que le dollar est la seule monnaie qui soit véritablement transnationale. C'est la monnaie de réserve et c'est la monnaie de facturation, etc. Et par conséquent, ils ont très peu de risques sur leurs dettes. Donc, en revanche, ils ont un risque de déflation très élevé. Ce risque de déflation très élevé, il faut absolument l'évacuer à tout prix. Et donc, ils jouent la carte de l'expansion monétaire à fond. Maintenant, si on prend le Japon, ils sont déjà dans une situation où ils étaient déjà dans une déflation avant la crise. Donc, ils ont une balance commerciale positive et déjà un très fort déficit budgétaire. Alors, ils n'ont plus de solution monétaire, puisqu'ils sont déjà ils sont déjà au bout du rouleau, en quelque sorte. Le taux est nul, le taux d'intérêt est nul, ils ont déjà créé des liquidités en masse. Bon, ils ne peuvent plus faire grand-chose de ce côté-là. La seule possibilité, ce serait de jouer sur la consommation intérieure et d'augmenter les salaires. Si le Japon ne se résout pas à aller dans cette direction, il continuera de rester dans une situation déflationniste. C'est vrai pour le Japon, nous y viendrons, c'est vrai aussi à l'échelle mondiale. Mais la France, maintenant, et la France est typiquement dans une situation délicate car intermédiaire. On a une forte dette, on a une dette qui est à 75% du PIB. Bon, c'est pas le plus élevé. On a un fort déficit, beaucoup trop élevé, et on risque de ne pas nous retrouver au chiffre nécessaire de 3% dans quelques années. Donc, on est dans cette situation-là, mais simultanément, l'économie française tient et a toujours tenu sur la consommation intérieure. Donc, c'est l'opposé de l'Allemagne, en quelque sorte. Donc, si on fait une politique d'austérité ou une politique de rigueur suffisamment élevée, on va sombrer dans la récession, ou du moins on va avoir une croissance extrêmement faible. Alors, en fait, la France est dans une situation d'être totalement contrainte, ou très largement contrainte, par la politique qui est menée en Allemagne et par les choix allemands. D'ailleurs, ça se lit dans la politique qui est suivie en France, puisqu'on essaye de se rapprocher de l'Allemagne, point de vue fiscal, social, etc. Donc, on est presque dans une situation où on est contraint largement par les choix qui ont été faits par Mme Merkel. Alors, la France met donc l'accent, à juste titre, sur la nécessité de la coordination européenne. S'il y avait une coordination européenne, il serait possible, à l'échelle européenne, d'avoir un soutien de la demande globale en Europe sans conséquences dramatiques, puisque l'Europe est très largement exportatrice globalement, en particulier grâce à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à d'autres pays, mais de façon globale, et pour faire encore plus net de la zone euro. Et on aurait la possibilité d'augmenter en particulier les salaires à l'échelle européenne. Ou bien, dans la situation actuelle de l'Europe, on aurait pu souhaiter que la coordination aille vers les pays qui sont les plus déficitaires, les pays qui vont, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, ou même hors zone euro comme le Royaume-Uni, ces pays qui sont dans cette situation-là, ils font un effort d'austérité. Bon. Et puis d'autre part, hein, on fait moitié du chemin, hein, moitié-moitié, moite-moite, 50%, 50%, les pays qui ont, comme l'Allemagne, qui sont dans une situation avec une balance commerciale très excédentaire, eux, il ferait au contraire une politique de relance. Donc, moitié-moitié, de façon à ce qu'on n'ait pas un renforcement de l'austérité au niveau de l'ensemble de l'Europe. Ce serait de la coordination européenne. Donc, il y a deux types de coordination européenne possibles, soit relance généralisée, soit, dynamisée même par l'Allemagne. Bon, évidemment, l'Allemagne s'y refuse totalement. Soit, à moitié-moitié, les uns font de l'austérité, les autres font de l'argent, et l'Allemagne s'y refuse tout autant. Et elle s'y refuse, elle joue donc la non-coordination, elle joue donc le voyageur sans billet, ou dans le cadre d'un jeu de dilemme du prisonnier, évidemment, elle joue la situation classique de non-coopération, alors que la coopération rapporterait à tout le monde. Mais la France est particulièrement dans une situation difficile. Alors, on ne peut pas continuer à jouer la consommation intérieure tout seul au bénéfice de l'Allemagne. Nécessité d'un soutien de l'activité, c'est tout le débat. Nécessité d'un soutien de l'activité. Alors, si l'endettement public a explosé, premier point, alors on voit l'augmentation des dettes cumulées États-Unis, Japon, zone euro, Royaume-Uni, c'est quand même pas mal. Entre 2007 et 2010, 11 000 et quelques milliards de dollars d'augmentation. Mais ça, c'est dû à la crise, c'est ce que je disais tout à l'heure. La crise est responsable de la baisse des recettes. Il y a eu une hausse des dépenses du fait des stabilisateurs automatiques, comme vous le savez, chômage, dépenses sociales. Et puis, il y a eu les plans de relance qui ont provoqué, évidemment, une augmentation des dépenses. Bon. Le troisième point, c'est qu'on a calculé ce qui se serait passé aux États-Unis sans ces plans de relance. Il y a eu un article, entre autres, de Blinder et Zandi là-dessus, pour pour le PIB. S'il n'y avait pas eu les plans de relance aux États-Unis, la chute du plus haut au plus bas aurait été de 12% au lieu de 4%. C'était déjà pas mal, 4%, mais 12%, c'était dramatique. Le chômage, même chose, on aurait atteint non pas les 10% ou les 9,8%, mais on aurait atteint 16,5% de chômage aux États-Unis. Donc, sauvetage par les plans de relance. Ensuite, une remarque qui avait été faite par Bradford Delon lui-même, qui est très intéressante. Il dit, là, il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe. En France, en Europe, en Allemagne, de façon générelle, les taux de chômage sont structurels. Bon, en revanche, aux États-Unis, le chômage, il est conjoncturel. C'est-à-dire, ça veut dire que quand il y a une variation de l'activité positive, la diminution du chômage est très forte. Et quand il y a au contraire une crise, une récession, l'augmentation du chômage est très forte. Tandis qu'en Europe, chômage structurel, c'est-à-dire indépendant, en partie indépendant des variations de la conjoncture. Mais Delon fait remarquer, à juste titre, que si on laisse du chômage conjoncturel, qui est du chômage keynésien, qui est du chômage dû à la faiblesse de la demande, perdurer, il va se transformer en chômage structurel. Donc il en conclut qu'il faut un plan de relance ou des plans de relance extrêmement actifs, extrêmement puissants, pour casser très rapidement le chômage aux États-Unis. Alors quatrièmement, dans cet ordre d'idées, des politiques de soutien restent nécessaires. Alors, il faut bien comprendre une chose. Les plans de relance créent de la dette publique, hein, créent de la dette publique, en particulier, évidemment, de la dette souveraine des États. Mais il s'agit, et il s'agissait, et il s'agit toujours de compenser l'effondrement de l'endettement privé. Parce que vous avez bien compris que dans la crise, alors qu'il y avait eu, pendant la période d'euphorie, une augmentation folle de l'endettement privé, des ménages et des entreprises, dans la crise, il y a eu une disparition. De l'endettement. Tout le monde se désendette. Tout le monde se désendette. Il faut bien compenser cet endettement privé par de l'endettement public. Pourquoi ? Pourquoi il faut compenser ? Eh bien, parce que la disparition de l'endettement privé, ça porte un nom, c'est la déflation. Parce que vous comprenez bien que la déflation, c'est la réduction de la masse monétaire. Ou la non-augmentation de la masse monétaire. La déflation, c'est la disparition. Cette masse monétaire, c'est quoi ? C'est l'endettement. C'est l'endettement. On ne crée plus de la monnaie avec des chercheurs d'or, avec leurs petits pics qui vont taper comme ça. On ne crée pas non plus de la monnaie avec des billets. C'est l'endettement. Quand vous allez prendre, prendre un endettement auprès de la banque, Elle crée de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Cette monnaie scripturale, elle est créée par l'endettement. Quand l'endettement disparaît, la base monétaire s'effondre, M3 s'effondre, ou du moins, le taux de croissance de M3 devient nul. Donc c'est bien ça le problème. Imaginez une situation où l'endettement s'effondre, l'endettement privé s'effondre, eh bien vous avez la crise de 1930. Et c'est ça qui terrorise Ben Bernanke, c'est ça qui le terrorise. Il a étudié la crise des années 30. Si vous laissez l'effondrement se continuer de l'endettement, vous avez ce qu'on appelle la déflation. C'est exactement ça. De même que dans l'autre sens, évidemment, la croissance de l'endettement fabrique de la monnaie et crée de l'inflation, bien sûr. En tout cas, de l'inflation d'actifs. Vous voyez ce lien entre endettement et base monétaire et liquidité, par conséquent. C'est rien d'autre que ça. Donc, on ne peut pas laisser tomber l'endettement. Ce serait criminel. Donc, c'est criminel, au sens strict. Si on l'est, or, il s'effondre. Alors, il faut compenser l'endettement privé par de l'endettement public. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. On le verra tout à l'heure. Les politiques de relance ont-elles été trop modestes ? Pas assez durables, mal orientées. Point d'interrogation. J'ai rajouté un point d'interrogation. J'hésite quand même entre les deux. Personnellement, je me rallierais à cette position, même pour les États-Unis, mais encore plus pour l'Europe. Pour l'Europe, je trouve que c'est effrayant, et ça tient au manque de coordination dont je parlais précédemment. Il aurait fallu des plans de relance beaucoup plus forts, de façon à nous sortir de cette stagnation longue que nous risquons. Mais pour un pays comme la France, pris isolément, c'était difficile, dans la mesure où les choix sont contraints par les politiques de l'Allemagne, et les politiques de l'Allemagne ont intérêt à jouer le voyageur sans billet, le free riding, pour des raisons qui tiennent à ce que leur balance commerciale est excédentaire et qui jouent à fond sur les exportations. On est en Europe dans une situation qui est particulièrement difficile. Mais aux États-Unis, quand on prend les thèses de Krugman ou de Martin Wolf, je ne sais pas si vous regardez dans Le Monde et dans le Financial Times, les articles de Martin Wolf, ils sont toujours très bons, c'est dans Le Monde de l'économie, il y en a encore un aujourd'hui. C'est très intéressant de voir l'idéologie du Financial Times qui est « il faut foncer à mort sur des plans de relance beaucoup plus importants ». Et il cite Larry Summers, qui était ministre des Finances. Il disait, j'aime bien cette phrase, « lorsque les marchés ont visé trop haut, les politiciens ne doivent pas hésiter aussi à viser haut ». Ça veut dire que face au tragique dérive sur l'endettement des banques et des particuliers et des entreprises, il faut évidemment créer des plans de relance et de la liquidité. Alors qu'aujourd'hui, c'est le sixième point, à contre-temps, on assiste exactement à l'effet, au phénomène inverse, qui me paraît très dangereux, c'est la rigueur qui se généralise. Je dis historiquement, c'est particulièrement dangereux, parce qu'au cours des années 30, c'est ce qui s'est produit, en particulier aux États-Unis, et ça a fait un rebond de la crise en 1937, du fait des politiques qui étaient des politiques d'austérité, dans la mesure où on avait peur du gonflement des déficits, exactement comme aujourd'hui. Bon, pourquoi c'est intéressant ce problème? Eh bien, à cause des chiffres que je donne ici. Ça, c'est très important, ce point. Très important. On sait que, quand on fait une politique de rigueur, de réduction de 1 point, un point de PIB. Hein. On fait une politique de rigueur correspondant à un point de PIB. Bon, on sait que ça induit une diminution de 0,5% du taux de croissance. Et on sait que ça a produit un accroissement du taux de chômage de 0,3%. Alors, c'est quand même particulièrement important et on a calculé que cette contraction de l'activité, donc 0,5%, chaque politique de rigueur de 1% fait une diminution du taux de croissance de 0,5%. Mais si le taux de croissance... Si, pardon, excusez-moi. Si le taux d'intérêt est nul, en d'autres termes, si on ne peut pas baisser le taux d'intérêt, alors, dans ce cas, la contraction de l'activité serait deux fois plus forte, c'est-à-dire 1%, 1%. Alors, vous voyez qu'on est dans une espèce de phénomène qu'on appelle parfois de cruche de la veuve. En plus... Plus on la remplit, plus on la vide, plus elle est pleine. Et là, plus on fait de la politique d'austérité, plus on a besoin de faire de politique d'austérité parce que le déficit augmente. Une politique d'austérité a comme conséquence de casser la demande, de casser la croissance. Un point de rigueur donne un point en moins de croissance. Un point en moins de croissance, bah, automatiquement, ça crée des recettes en moins, 1%. Et ça crée des dépenses en plus. Et donc le déficit redevient plus important. Donc vous êtes dans une espèce de situation qui est un cycle infernal. On ne peut pas réguler vers le bas dans des situations aussi très... On ne peut pas réguler en bas en faisant de la politique de rigueur, puisque la rigueur produit en quelque sorte de la non-croissance, et la non-croissance produit du déficit, donc encore plus de rigueur. C'est Sisyphe, hein, c'est le mythe de Sisyphe, où il faut toujours remonter... le pauvre Sisyphe, toujours remonter le rocher qui redescend simultanément. Alors, je vous disais que je vous donnerai le graphique avec la baisse de... Regardez, en bleu, c'est l'endettement privé. C'est l'endettement privé des ménages et des entreprises non financières. Et en rouge, c'est la dette publique fédérale et donc souveraine et des collectivités locales. Bon, on voit très bien, c'est spectaculaire, regardez la chute de l'endettement. Alors, si vous continuez cette chute de l'endettement, c'est ça la déflation. La déflation, elle est là, très exactement, dans cette chute que vous voyez avec ma petite flèche. Bon, alors ça a été compensé, mais pas pleinement compensé par la dette publique. Alors tous ces gens qui viennent vous dire, c'est tragique, C'est tragique, on s'endette, vous savez, avec l'horloge, tic-tac, et toutes les secondes, on voit des millions qui s'affichent supplémentaires d'augmentation de la dette publique. Peut-être, peut-être. Mais s'il n'y avait pas ça, alors là, on serait dans la crise des années 30. Vous voyez ? Voilà. Alors maintenant, la politique monétaire. Très importante, la politique monétaire. Alors là, je veux simplement montrer la difficulté intellectuelle de la politique monétaire qui est suivie aux États-Unis. Déjà, les taux d'intérêt, ils sont à zéro. On ne peut plus les baisser, hein, on est bien d'accord. Donc, il reste la quantitative, la politique quantitative easing, c'est-à-dire création de monnaie. Création de monnaie comment ? En rachetant des titres, soit privés, soit publics, en rachetant de la dette souveraine, par exemple. Bon. Quand est-ce qu'elle est... Est-ce qu'il y a des limites à cette politique de création de monnaie ? Ben Bernanke, il va à fond. Est-ce que c'est inquiétant, quelquefois ? Bon. Elle est nécessaire. Nécessaire, strictement nécessaire, quand il s'agit de créer un choc brutal lorsqu'il y a un risque d'effondrement de la liquidité, en particulier lorsqu'on est, comme on était au début de la crise, dans une crise de liquidité avec un marché interbancaire où les taux d'intérêt augmentaient très fortement. Là, il ne faut même pas hésiter une seconde, il faut balancer des liquidités en masse. Donc il faut créer un choc positif. Bon, elle est nécessaire aussi, évidemment, quand il y a un risque de déflation, et que les taux d'intérêt sont déjà nuls. On peut, pour lutter contre le risque de déflation, donc quand il y a un risque d'effondrement de la masse monétaire de M3, de M2 et de M3, avec la baisse de l'endettement. Mais, c'est ce que j'écris en gras, les moyens monétaires de la lutte contre la crise risquent de produire les conditions de la future crise. Ça, c'est important. C'est ce qui s'est passé en 2001-2002, puisque, à l'époque, c'est Greenspan, c'est pas Bernanke, je vous l'ai dit et répété, pour éviter la récession après 2002, il crée une masse de liquidités. Il crée une masse de liquidités, il laisse par conséquent la masse monétaire augmenter, il la crée, ou plutôt, il la fait augmenter à partir de avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Bon, eh bien, on refait exactement le même truc. Pour sortir de la crise, bien sûr qu'il faut faire du quantitative easing. Mais jusqu'où ? Parce que ce quantitative easing, dans la mesure où il soulage le risque de déflation, il est aussi responsable potentiellement d'une augmentation future du prix des actifs, c'est-à-dire une inflation d'actifs, une réapparition de bulles immobilières ou de bulles spéculatives sur les titres. On risque de se retrouver de nouveau avec des effets de levier beaucoup trop importants, c'est-à-dire trop d'endettement. Alors, en fait, je le dis un peu plus bas, on a comme une course contre la montre entre deux risques. Un risque de déflation de la dette, hein. Hein, debt deflation, comme dit Fischer. Déflation de la dette. C'est-à-dire effondrement de la dette. Vous avez vu, de la dette privée, bien sûr. Premier risque. Et puis, d'autre part, le remède par la création de monnaie. Alors, l'image, c'est la baignoire. pas très élégante image. Mais une baignoire qui se vide. Ça, c'est l'effondrement de l'endettement privé. Et on la remplit avec du quantitative easing. Bon. Alors, il s'agit de trouver un équilibre. Mais c'est très, très difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Il faut vraiment doser avec les robinets de façon à calculer la vitesse avec laquelle elle se vide, la vitesse avec laquelle elle s'en remplit. Et je dis que c'est quand même... Il y a un risque de faire déborder si ça ne coule pas suffisamment vite et ça se remplit trop vite. Et ce débordement, ce serait de nouveau la création de nouvelles bulles. Et ça, c'est le risque, en quelque sorte, de recréer les conditions d'une nouvelle crise, en recréant les conditions de nouvelles bulles, les conditions de nouvelles bulles liées de nouveau à des endettements trop importants. Vous voyez, en France, quand on voit que les appartements ont repris 20% très rapidement au cours de 2010, à Paris, on se dit, attention, il va de nouveau y avoir la bulle immobilière, ça peut repartir comme ça. Ça peut repartir. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que ça ne reparte pas en bulle. Hein, parce que si ça repart en bulle, dans 3 ans, de nouveau, la même crise, sans doute en plus violente, parce qu'on n'aura même plus la possibilité de faire intervenir l'État. Et l'autre risque, c'est la trappe à liquidité. Alors évidemment, là, c'est une question de cours. Hein, c'est trappe à liquidité, c'est le pont aux ânes, comme on disait. Je ne sais pas si ça se dit toujours pour les questions que tout le monde doit connaître. C'est la situation dramatique dont parle Keynes, où la politique monétaire n'a plus d'effet. Alors pourquoi elle n'a plus d'effet? Parce que le taux d'intérêt, lorsqu'il est devenu pratiquement nul, les anticipations sur l'évolution du taux d'intérêt sont toutes à la hausse, évidemment, puisqu'il ne peut plus baisser. Et comme les obligations évoluent au sens inverse du taux d'intérêt, tout le monde anticipe la hausse du taux d'intérêt, donc la baisse des obligations. Puisque tout le monde, des titres de façon plus générale, donc tout le monde anticipe la baisse des titres, personne n'en achète. Personne n'en achète. Et par conséquent, si personne n'en achète, la totalité des liquidités créées est thésaurisée. Et c'est l'échec de la politique. Bon, il n'y a plus... Alors, regardez la déflation, quelques données. Ça, c'est le taux de croissance de M3. Bon, with SGS continuation, ça ne vous compliquez pas la tête avec ça. C'est parce que les États-Unis, enfin la Fédérale Réserve, ne donne plus M3. Ils avaient arrêté de calculer M3 et ça a été calculé pas par eux. Donc regardez l'évolution en taux de croissance. Hein. Le taux de croissance de M3, il était tombé à peu près à zéro. Voilà, -0,1. Donc ça c'est la déflation. Hein. Bon, alors ça c'est pour les États-Unis. Regardez pour la zone euro, taux de croissance, c'est spectaculaire, c'est absolument spectaculaire. Regardez à combien le taux de croissance de M3, donc la masse monétaire, était monté. Il était monté à un taux de croissance à 12%, c'est dire à quel point il y avait un accroissement des liquidités, d'inflation, qui était tout porté sur les actifs, et on est tombé à zéro. On est tombé à zéro. Donc voilà le risque de déflation qui est marqué là. Bon. Autre méthode réglementée. Bon, je reviens pas, je passe très rapidement sur les nécessités de réglementer. On peut considérer que Bâle III est encore trop modeste par rapport à ce qu'il faudrait faire. On peut considérer que la règle de Walker est insuffisante également et qu'il faudrait rétablir le Glass-Steagall Act, etc. Et il y a un point qui est très important, c'est accroître non pas seulement la réglementation, c'est-à-dire la regulation, au sens anglo-saxon, mais accroître le pouvoir de supervision. Mais F me paraît plus intéressant. Agir sur la répartition, puisqu'on parlait de ça. Enfin, plus intéressant, plus original, en tout cas. Je suis persuadé qu'on ne sortira pas à la fois de la crise et de l'instabilité du régime de croissance sans trouver les moyens de stabiliser ce régime de croissance ou d'en sortir par mise en œuvre d'un autre paradigme productif. La base même de la faiblesse, c'est, comme nous l'avons vu, la faiblesse de la demande. Et la faiblesse de la demande, elle a un besoin d'une base qui est la base de consommation des ménages. Et l'augmentation des salaires est absolument indispensable. Ce qui se passe fondamentalement depuis une trentaine d'années, depuis les années 80, avec le régime de croissance financiarisée ou patrimoniale, c'est que les salaires n'augmentent plus. Les salaires n'augmentent plus, vous avez vu, 80% stagnent aux États-Unis, c'est pareil chez nous, pareil en Europe. Au Japon, c'est bien pire puisqu'ils baissent. Donc, ils baissent en nominal, donc c'est tout à fait dramatique. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une possibilité d'une reflation salariale, c'est-à-dire une reflation qui serait entre 15 et 20% des salaires dans les pays comme l'Europe ou les États-Unis ou plus encore au Japon. Alors, évidemment, difficulté majeure, c'est le taux de chômage. Quand il y a un taux de chômage autour de 10% comme en Europe ou aux États-Unis, c'est très difficile d'augmenter les salaires. Donc, il faudrait agir. Alors, comment agir? On peut agir de deux façons, soit sur les... puisque, avec le chômage, il y a peu de chances que les salaires privés distribués par les entreprises privées augmentent, étant donné qu'ils ne sont pas obligés de le faire puisqu'il n'y a pas de plein emploi, qu'il y a au contraire un fort chômage, il resterait d'agir sur les rémunérations directes ou d'agir sur les transferts. Alors, sur les rémunérations directes, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, l'État pourrait agir sur les bas salaires, donc agir sur le SMIC. On l'a beaucoup fait en France, on l'a fait de façon relativement isolée, ça présente beaucoup d'inconvénients, dans la mesure où le SMIC joue comme râteau. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on augmente le SMIC, comme les autres salaires n'augmentent pas, il y a de plus en plus de salariés qui sont payés au SMIC, on arrivera à un moment où la moitié de la population sera payée au SMIC, ce qui est tout à fait catastrophique à tout point de vue, socialement, psychologiquement, politiquement, tout ce que vous voulez. C'est vrai, en revanche, pour d'autres pays. C'est vrai pour la plupart des autres pays qui n'ont même pas de salaire minimum. Encore plus pour les pays émergents ou pour les États-Unis. On pourra agir sur les salaires des fonctionnaires, évidemment, mais là aussi se pose le problème du déficit budgétaire et de la coordination à l'échelle européenne. De même, fixer à des niveaux rémunérateurs le prix des denrées agricoles, comme ça avait été fait pendant la grande crise, et puis réglementer les rémunérations les plus élevées. Alors, cette stratégie n'a guère de chance, il faut bien reconnaître. C'est pas parce qu'elle serait souhaitable, voire nécessaire, qu'elle va se réaliser. Donc, pratiquement aucune chance, et pourtant, elle est indispensable au Japon. Le Japon, en particulier, ne sortira pas de la situation de déflation s'il n'y a pas une revalorisation massive des salaires, d'autant plus que la déflation est ancienne, et qu'ils ont tout essayé, sauf ça, bien entendu, sauf ça. Ils ne risquent pas de le faire très facilement non plus. Ça suppose fondamentalement une coopération en Europe. Et cette coopération, cette action coordonnée en Europe, on en est très loin. On est presque aux antipodes. Alors on peut se dire, et on se tourne d'ailleurs vers la Chine, vers d'autres émergents, en leur disant, jouez, à vous de jouer, jouez votre marché intérieur, comme on a vu, qui non seulement a beaucoup de retard, mais qui en plus, depuis une dizaine ou une douzaine d'années, c'est relativement, je dis bien, relativement resserré par rapport à l'augmentation de la part du marché extérieur pour la Chine. Ou agir par la fiscalité, par les transferts publics. Là aussi, c'est très difficile, mais il faudrait agir en baissant les impôts sur les catégories les plus pauvres ou les plus modestes. Ça suppose en particulier de ne pas s'amuser à jouer avec une augmentation de la TVA et des impôts indirects, comme on en parle souvent parce qu'on sait sur qui ils pèsent. Deuxièmement, une mise en place de la progressivité réelle de l'impôt, parce qu'en France, on n'a plus de progressivité, contrairement à ce que les gens vous racontent. Pourquoi on n'a plus de progressivité ? Ben, vous revenez au graphique antérieur. C'est vrai pour la France, pour l'Angleterre, pour les États-Unis. En fait, tout se joue dans la tranche des 10% supérieurs. C'est dans cette tranche-là que ça joue. Or, elle est toute à la même tranche. Il n'y a aucune progressivité dans la dernière tranche. Et le résultat, aucune progressivité. Le résultat, c'est que l'ensemble des gens des 10% qui sont au-dessus, ils sont taxés, qu'ils soient dans le 0,001 ou qu'ils soient à la limite des classes moyennes. Donc, troisièmement, la question de la fiscalité sur le capital. Alors là, c'est la grande question dont on parle aujourd'hui. C'est vraiment une question à l'ordre du jour en France. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à avoir une fiscalité du capital qui soit à la fois efficiente ? Bon, sur l'ISF, qui est terriblement critiqué par le lobby et qui est effectivement assez mal construit à la mesure où l'ISF il est peut-être trop orienté vers l'immobilier parisien en particulier. Peut-être, mais attention, on critique toujours l'impôt assis sur le capital plutôt que l'impôt assis sur le revenu du capital. Mais il présente un avantage, l'impôt assis sur le capital et pas sur le... Il présente un avantage, des inconvénients, un avantage. Et l'avantage, c'est que ceux qui ont un capital qui est passé de façon non productive, peu productive ou pas productive, ils sont autant taxés que ceux qui ont un capital qui est placé de façon très productive. Et par conséquent, l'ISF pénalise ceux qui ont placé, qui ont investi dans un capital peu ou pas productif. Parce que tout le monde est taxé de la même façon en fonction simplement du degré d'importance de son capital. Donc ça crée une incitation à placer son capital de façon, par exemple, typique, les gens qui ont une fortune en terrain dans l'île Dorée, bon, ça rapporte que dalle parce qu'ils y plantent des choux-fleurs, et ça vaut des sommes absolument astronomiques. Bon, eh bien, c'est simplement un placement irrationnel, parce que très peu productif, c'est normal qu'ils soient taxés. Ils feraient mieux de vendre leur propriété dans l'île de Ré, c'est triste, parce qu'ils aiment bien l'île de Ré, mais ils n'ont pas à se plaindre, dans la mesure où leur capital serait bien plus placé, mieux placé productivement, s'ils s'étaient placés dans des usines, dans des, je sais pas moi, en rachetant des fonds d'université, n'importe quoi. Mais... Bon, enfin, troisièmement, la fin des cédules. Alors, vous savez ce que c'est que les cédules ? Quand les impôts sont différents selon la source de revenus. Une cédule, c'est quand l'impôt sur les salaires a des taux différents de l'impôt sur le capital, justement. Eh bien, il faudrait arrêter les cédules. Or, c'était la règle des libéraux. Quand on étudie ce que les libéraux, depuis Adam Smith, expliquaient, le crime en matière de fiscalité, c'était les cédules. C'est-à-dire ce qu'on doit faire en matière de fiscalité, que toutes les sources de revenus soient taxées de la même façon d'où qu'elles viennent. Que vous gagnez de l'argent parce que vous êtes salarié, ou parce que vous êtes rentier, parce que vous êtes grand propriétaire, ou parce que vous êtes capitaliste, c'est aucune importance. Il faut payer au même taux, enfin selon la progressivité désirée. D'accord ? Or, en France, par exemple, on a un impôt sur le capital qui n'a rien à voir, un impôt sur les revenus du capital, les revenus patrimoniaux, qui n'a rien à voir avec l'impôt sur les revenus du travail. Et il faudrait unifier cela de façon à avoir qu'un seul taux. Voilà. Dernier point. Par exemple, Michel Aglietta, il a mis terriblement l'accent, lui aussi, mais particulièrement, sur une transformation de la fiscalité, avec entre autres la fiscalité carbone, dont il compenserait les effets. Dernier point, les stratégies égoïstes. Bon, les risques de ces stratégies égoïstes, c'est-à-dire les sorties solitaires de la crise, quoi, contre les autres. Moi contre les autres. C'est un risque parce que effectivement on risque tout le monde d'aller. Moi, j'appelle ça des solutions hobbesiennes parce que je suis moi-même un grand lecteur de Thomas Hobbes, mais c'est vraiment la guerre de tous contre tous. C'est vraiment l'état de nature. Bon, si on considère le monde comme un état de nature, exactement comme Hobbes le pensait, à ce moment-là, on peut jouer des stratégies non coopératives qui ont comme caractéristique d'être bonnes pour soi et catastrophiques au niveau global. Alors, ces stratégies de voyageurs sans billets, de free riding, qu'est-ce qu'il y a ? Un, la stratégie exportatrice par la rigueur. Alors, dans ce cas, la stratégie, c'est l'Allemagne, si vous voulez. Ça, c'est l'Allemagne. Freinage des dépenses de consommation des ménages, restriction des dépenses publiques pour dégager un surplus exportable. Bon. Et c'est jouable, mais pas pour tout le monde. Il faut quand même que cette stratégie soit appuyée sur des capacités exportatrices particulières, c'est-à-dire appuyée sur une certaine situation de la production, de l'offre. Si, par exemple, la Grèce fait ce type de... Ben, j'ai rien contre les Grecs, mais si la Grèce se lance dans cette stratégie, on peut dire que l'offre exportatrice ne suivra pas. Parce que... faiblesse de la production industrielle, et ce n'est pas le tourisme, l'huile d'olive ou les yaourts au miel qui vont remplacer l'énorme machine industrielle allemande. Bon, la France, c'est pareil, un peu comme la Grèce. Un peu, moins grave, mais quand même, on sait que l'adaptabilité de nos entreprises en matière d'exportation est relativement faible parce qu'on manque de grandes entreprises moyennes, de capacités exportatrices, de dynamisme exportatrice, de tradition commerciale, que sais-je, a été beaucoup étudié. Mais ça fait que c'est pas sûr que cette politique nous réussirait aussi bien que l'Allemagne parce que l'offre exportatrice ne réussirait pas. Mais pour l'Allemagne, c'est une réussite totale. Donc ils jouent à fond la réduction de la consommation des ménages et de l'État, et puis ils dégagent leur surplus exportable, et ce surplus, il est exporté grâce à l'efficacité de leurs entreprises moyennes de grande dimension, les entreprises de 1500 travailleurs. Deuxièmement, une autre solution, qui a été la grande solution à la française jadis, c'est les dévaluations compétitives, la guerre des monnaies, c'est-à-dire des guerres my neighbor policy, c'est-à-dire on dévalue pour rejeter le chômage sur les autres. Alors évidemment, à l'intérieur de la zone euro, on ne peut pas le faire, sauf globalement. Et d'une certaine façon, la crise de l'euro a produit ou pourrait produire une telle dévaluation. Mais c'est ce qu'a fait ou ce que fait la Chine depuis déjà une décennie, et c'est sans doute ce que visent les Américains avec leur politique de quantitative easing. Ils créent de la monnaie et par conséquent, ils vont faire baisser la valeur de leur monnaie, ils essayent de faire baisser la valeur de l'art, et donc dévaluation compétitive. Donc c'est une possibilité. Il y a troisièmement le protectionnisme dont on parle beaucoup. Enfin, quatrièmement, ce qu'a fait l'Irlande en attirant les entreprises étrangères de façon tout à fait artificielle en supprimant pour elles tout impôt. Alors, peut-on retrouver le chemin de croissance antérieur? Alors, comment dire, plusieurs hypothèses. Voilà, plusieurs hypothèses, trois hypothèses, H1, H2, H3. On pourrait compliquer. H1, on réussirait à combler le manque à gagner de la crise rapidement, en quelques années. On reviendrait sur l'ancien chemin de croissance. Deuxième hypothèse H2, on retrouverait le même chemin de croissance, mais à un niveau inférieur, c'est-à-dire que ce qui est perdu, mais on croît au même taux que précédemment. Et troisièmement, on retrouvera un taux de croissance, mais à plus faible pas. Alors, si on étudie les hypothèses H1 et H2, on voit que ces deux hypothèses supposent qu'on retrouve le même dynamisme, les mêmes ressorts qu'antérieurement. Bon, la différence entre elles, c'est simplement le caractère plus ou moins puissant du dynamisme de la reprise, de la sortie de crise. Bon... quand on a étudié toutes les sorties de récession précédentes, on s'aperçoit que l'hypothèse H1 est très largement irréaliste. On ne récupère pas ce qui a été perdu par la crise. On ne récupère pas, mais on retrouve parfois un chemin de croissance équivalent. Et H2, l'hypothèse H2, suppose que le régime de croissance lui-même ne soit pas atteint et que ce soit simplement une crise de croissance, ce n'est pas une crise, du régime de croissance. Qu'est-ce que ça suppose, H2? Eh bien, ça suppose que le capitalisme financier, le capitalisme patrimonial, retrouve son dynamisme, un dynamisme qui est fondé sur la croissance de l'endettement, sur les effets de levier, avec les risques de bulle et de reconstruction de risques de conditions des nouvelles crises futures. Donc, pour que le capitalisme financier retrouve son dynamisme, avec le risque qui nous entraîne devant de nouvelles crises, il faudrait reconstituer toutes les conditions qui prévalaient avant la période 2007 et qui prévalaient pendant la période 2004, 2005, 2006, avec les conséquences que ça pourrait avoir, puisque dans les 6 ans à venir, on peut être sûr qu'on aura une nouvelle crise, peut-être encore beaucoup plus importante. Quant à H3, ça suppose qu'on a vraiment une crise du régime de croissance avec un risque de taux de croissance plus faible, voire de relative stagnation, voire de stagnation séculaire. Bon, jusqu'où? Eh bien, jusqu'au moment où, après une phase de transition dont la durée est un peu indéterminée, on retrouverait un nouveau régime de croissance qui serait, lui, plus performant. Et il peut y avoir des hésitations et des discussions autour de ce nouveau régime de croissance. Nombreux sont ceux qui pensent que ça pourrait se faire autour de nouvelles technologies vertes, plus porteuses. D'autres pensent que ça pourrait se faire à partir du renforcement des syndicats ouvriers et d'une augmentation des taux de salaire. D'autres pensent que c'est la mise en place d'un mode de régulation à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, qui seul pourrait reconstituer un nouveau régime ou un nouveau paradigme productif. Je pense qu'il faudrait sans doute les trois, c'est-à-dire un mode de régulation intentionnel, d'abord à l'échelle européenne, puis éventuellement à l'échelle mondiale, ce qui va demander du temps, même pour l'échelle européenne. Deuxièmement, qu'il y ait une prise en compte majeure en particulier dans les pays développés, Europe et États-Unis, nouvelles contraintes environnementales et donc des technologies adaptées. Et enfin, et surtout, qu'il y ait une remontée en puissance des syndicats de salariés de façon à pouvoir aller vers, retrouver en quelque sorte une croissance fondée sur l'accroissement des salaires réels, comme ça avait été le cas dans les années 1960. Alors, voilà mon dernier petit graphique pour les hypothèses 1, 2, 3. Vous voyez, 1, ça c'est la crise. La crise, elle est là. Tac. Alors, 1, on a retrouvé, on a récupéré, on retrouve le sentier de croissance. 2, ben, on retrouve un sentier de croissance à même taux, mais évidemment à un niveau plus faible, parce qu'on a perdu tout ce trou, et enfin une grande partie de ce trou. Et 3, on retrouve un sentier de croissance, mais plus faible. Et voilà.